réel, c'est 3 points de suspension.
Vous pouvez bien mettre 3 points de suspension car c'est un sujet très vaste. Pour bien vous orienter, nous ne pouvons pas parler de spiritualité sans vous parler de Dieu, ou de ce que vous appelez Dieu, ou de ce que vous appelez la source, ou de ce que vous appelez l'infini. Alors nous partirons du sommet de la source et nous descendrons. Et ensuite, nous passerons à travers chacune de vos demeures, puis vous comprendrez comment vous êtes lié comme être humain à cette source absolue. Ensuite, à partir de cet enseignement, vous pourrez déduire ce qui est spirituel et ce qui est une apparence du spirituel. Alors, parlons d'abord de cette source absolue, de cette source indéfinissable, de cette source incommensurable que vous appelez Dieu et que nous appelons l'intelligence absolue. Une intelligence qu'aucune intelligence humaine ne peut soupçonner tant elle est grande. Et cette intelligence, bien sûr, veut être en contact et l'est de toute façon par des moyens, vous diront, qui ralentissent sa démarche avec toute la création, avec tous les univers. Cette intelligence absolue contient deux polarités. Exactement comme vous contenez deux polarités, le yin et le yang, ou le féminin et le masculin. Alors cette source d'intelligence contient aussi deux polarités, la polarité amour et la polarité conscience. C'est à partir de cette source absolue de conscience et d'amour que tout est créé, que tout fut créé et que tout sera créé. Alors cette source, pour être capable d'être en contact avec l'être humain, doit prendre des moyens, que nous appellerons des moyens détournés, mais comprenez bien que ce n'est pas détourné dans le sens de vous tourner le dos, mais bien dans le sens de ne pas vouloir brûler votre énergie. Car cette énergie est tellement puissante que vous ne pourriez pas être directement en contact avec sans passer à travers des corps différents que nous appellerons des champs vibratoires. Nous vous parlerons alors de trois champs vibratoires différents. Le premier champ vibratoire, appelé champ spirituel, vient nourrir trois autres champs vibratoires ou trois autres centrales électriques, si vous voulez. Comparez-les à des centrales. Imaginez que le central absolu que nous avons appelé le divin contient toutes les capacités et que pour être capable de vous rejoindre, elle doit passer à travers des centrales que nous appelons des champs. La première centrale s'appelle la centrale spirituelle. Elle contient toute nourriture possible à laquelle l'homme peut avoir accès. Lorsque nous parlons de nourriture, nous parlons bien sûr de la nourriture de tous ses corps et de tous vos corps et de toutes vos mémoires et de toutes vos mémoires du passé et de toutes vos mémoires du futur. Et vous entendez bien sans vous tromper. Alors ce champ spirituel est une énergie qui est tellement subtile qu'il est difficile à l'être humain d'y avoir accès. De toute façon, il n'y a pas longtemps que cette centrale a été construite parce que l'être humain n'était pas prêt à pouvoir accéder à une telle conscience et à un tel amour. C'est pourquoi il n'y a pas plus que 8000 années qu'il y a des maîtres et des... nous dirons des avatars et des maîtres ascensionnés sur le plan terrestre, alors des êtres qui ont eu contact avec cette centrale. Elle a été créée entre vous et le divin parce que ses maîtres étaient suffisamment évolués pour venir sur le plan terrestre et pour permettre à la race humaine de faire un bond que nous appelons parfois un bond quantique. Sous ce plan, il y a un autre plan, appelé le plan akashique. C'est un lieu de mémoire. Mais avant de parler du plan akashique, même s'il est placé tout près du corps spirituel, nous parlerons d'abord du plan causal. Le plan causal, vous pourriez le comparer à un ordinateur tellement puissant qu'il a la capacité d'enregistrer exactement toutes les pensées et tous les actes qui se passent non seulement dans la tête d'un seul humain, mais dans la tête de toute la race humaine à la fois. Il n'y a pas une seule pensée que vous émettez, il n'y a pas un seul geste que vous posez, il n'y a pas une seule aspiration que vous ayez qui n'est pas enregistrée à l'intérieur du corps causal. Donc, le corps causal, et nous l'expliquons bien parce que tout à l'heure, lorsque nous arriverons dans votre vibration, vous comprendrez quelles sont les concordances. Alors, ce corps causal, vous pouvez le voir comme le bassin contenant depuis le début des temps, c'est-à-dire depuis le début plutôt de l'apparition de l'homme, de toutes les pensées humaines, de toutes les pensées de colère ou de haine ou de guerre, de toutes les pensées d'amour et de joie et d'espérance. Alors, tout ceci est contenu dans le corps causal. La différence entre le corps causal et le corps akashique, c'est que le corps akashique, lui, il fait une distinction. Il va puiser les informations dans le corps causal, mais il ne retient que les informations lumières afin de pouvoir les protéger, et nous nous amusons en prenant cette expression, de les protéger de toute pollution. Alors, le corps akashique contient toutes les mémoires lumières de l'humanité, toutes les pensées lumières émises par peu importe qui a fréquenté le plan terrestre depuis que les hommes sont des hommes. Ces corps ont des vibrations très puissantes. Nous vous dirons qu'il y a peu de temps, nous vous disions tout à l'heure, il y a 8000 ans, que l'homme peut avoir accès à ces vibrations. Et nous vous dirons, il n'y avait pas beaucoup d'êtres humains qui avaient cette capacité. Il y avait de rares exceptions autrefois, parce que la race, en termes de conscience, n'était pas globalement suffisamment évoluée. Maintenant, autre chose est en train de se passer. Alors, vous voyez bien que ces dimensions que nous venons de définir, que nous avons appelées le champ causal ou le corps causal, le corps akashique, le corps spirituel et le corps divin. Vous avez donc ces quatre corps. Ces corps ne font pas partie de l'astral. Ils sont véritablement coupés d'une certaine façon de l'astral, parce que leurs vibrations sont trop puissantes. Et alors, vous pourriez les appeler des vibrations transpersonnelles, c'est-à-dire au-delà du personnel et au-delà de l'individuel de l'humain, quoi que ceci ne se coupe pas de l'individualité de l'être. Il y a ensuite, entre l'individualité de l'être et ses champs transpersonnels, il y a ce que vous appelez le moi supérieur. Le moi supérieur ou l'âme supérieure sont l'arbitre entre l'être qui essaie de sortir de façon définitive des plans de l'astral pour avoir accès au plan transpersonnel. Alors, bien sûr, ceci ne se fait pas brusquement et ne se fait pas comme lorsque vous roulez dans une voiture, que vous quittez un village et que vous entrez dans un autre. Non, puisque vous êtes des êtres multidimensionnels, vous avez donc la capacité qu'il y ait encore des parties de vous qui soient dans les champs de l'astral, alors qu'il y a des parties de vous qui fréquentent le plan causal et le plan akashique. Il y a peu d'êtres qui fréquentent véritablement le corps spirituel, ceux-là sont des maîtres et sont des êtres illuminés, des êtres éveillés et des avatars. Maintenant, que fait le moi supérieur? Il est, comme nous dirons, l'arbitre entre ce qui est en haut et ce qui est en bas, entre le microcosme et le macrocosme, entre le personnel et le transpersonnel, entre le manifesté et le non-manifesté. Ensuite viennent chacun des corps que vous avez. D'abord, il y a votre corps physique. Votre corps physique, lui, il est entouré d'une gaine que nous appelons la gaine éthérique. Il contient aussi des mémoires, mais des mémoires qui vous sont particulières, qui n'appartiennent pas aux autres. Cela vous est en propre. Vous pourriez les appeler vos mémoires individualisées. Ensuite, il y a votre corps astral qui est votre corps émotionnel. Ce corps est d'une grande importance, car lorsque vous avez fait des efforts, puisque tout ceci est un processus thérapeutique, et que vous avez fait des efforts pour libérer votre corps émotionnel des émotions qui l'emprisonnaient, qui sont la colère ou la peur ou la haine, où nous vous dirons toutes ces formes d'émotions qui vous tiennent prisonnier, alors nous vous dirons votre propre corps émotionnel se libère et il devient une forme de matrice capable de recevoir la semence divine. Et alors, étant capable de pouvoir porter cette semence, il sera nourri par les corps supérieurs afin que cette semence éclatant, vous deveniez progressivement l'être divin que vous êtes. C'est pourquoi, depuis plusieurs années, nous insistons afin que vous puissiez libérer votre corps émotionnel de toutes les vibrations anciennes. Ensuite, parmi ce corps émotionnel, au-delà de ce corps émotionnel, ou presque confondu parfois avec le corps émotionnel, il y a votre corps mental. Votre corps mental, c'est celui qui émet des pensées. Et des pensées, quoique vous ne les voyez pas, elles sont aussi matérialisées que la chaise sur laquelle vous êtes assis ce soir et le plancher sur lequel vous marchez. Les pensées sont des objets matérialisés. Nous vous dirons parfois ils se matérialisent en matière, mais ils sont toujours très denses dans la vibration. C'est pourquoi lorsque l'être arrive à faire taire le mental, à le libérer de la pensée, à prendre de la distance par rapport à ses croyances, par rapport à des enseignements précédents qui lui ont été donnés, par rapport à des karmas qu'il vient régler sur le plan terrestre, alors il commence à s'installer dans le mental supérieur. Le mental supérieur, lui, qui est souvent situé dans le second chakra du cœur, est une forme d'intelligence capable d'être intermédiaire entre le mental qui crée des pensées lourdes et matérialisées et cristallisées et le mental et le corps akashique et le corps causal et le corps spirituel. Ensuite vient le chakra du cœur. Là, le chakra du cœur, c'est le lieu du passage. Lorsque quelqu'un commence à s'établir dans la paix de son cœur, qu'il commence à poser sur tout ce qui est un regard d'amour et de compassion, alors les vibrations augmentent très rapidement. Et le passage entre le cœur et le corps causal peut se faire dans peut-être uniquement 3 ou 4 années. Alors que nous vous dirons, le reste du cheminement a pris des millénaires. C'est pourquoi il est important de contacter le chakra du cœur. Celui-ci vous donnera la parole juste. Lorsque vous aurez contacté la parole juste, alors le troisième œil s'ouvrant vous mettra en contact avec les plans supérieurs et votre perception du spirituel aura complètement changé. Lorsque vous serez rendu à cette étape, le spirituel ne sera plus lié à l'ego, car le spirituel faux, ou nous vous dirons une mauvaise notion du spirituel, est lié à l'ego. Celui ou celle parmi vous ou parmi ceux qui actuellement tentent de s'ouvrir à la supraconscience, il y a des gens qui disent « Ah, moi, j'ai lu quelques livres et chaque matin, j'allume une chandelle, je fais brûler de l'encens, donc je suis un être spirituel. » Nous vous disons que l'encens, c'est bien, c'est une odeur qui calme et qui purifie l'aura. La chandelle que vous allumez, c'est un symbole du feu qui est le feu purificateur. Mais tant que vous vous attachez à des objets et à des choses et à des phénomènes extérieurs et que vous recherchez ces phénomènes extérieurs, alors vous êtes dans une fausse notion de l'astral, du spirituel. C'est une notion astrale du spirituel et non d'une spiritualité réelle. Être un être spirituel, c'est être ouvert à la conscience et à l'amour, et ne plus rien chercher d'autre, ne plus poursuivre rien d'autre que cette conscience et cet amour à travers tous les gestes posés, à travers tous les regards portés, à travers toutes les mains tendues et à travers la recherche de libération intérieure. Alors comprenez bien qu'avoir accès au plan spirituel, c'est se dépouiller, c'est se détacher de l'ancien, c'est commencer à voir l'univers comme Dieu le voit, sans jugement et uniquement dans l'amour, la compassion, un amour qui n'attend rien, un amour impersonnel, un amour qui est la vibration absolue et la liberté absolue. Peut-être cet enseignement que nous vous donnons ce soir vous apparaît compliqué, mais si vous prenez le temps de bien l'ingérer, de bien la comprendre, ceci éclairera votre chemin, ceci mettra de la lumière sur la voie sur laquelle vous êtes acheminé, et alors vous pourrez avec plus de facilité commencer à avoir accès à des plans supérieurs, dans une spiritualité réelle, bien au-delà du personnel et de l'individuel. Le personnel et l'individuel appartiennent au moi. Le transpersonnel appartient au soi. Le soi ne boude pas le moi, mais quelque part, il l'entraîne. Il l'entraîne dans sa vibration afin que ce moi puisse se transformer peu à peu et obtenir ce que nous appelions tout à l'heure le regard divin. Et maintenant, nous serions prêts pour répondre à vos questions.
Alors, comme première question, j'ai remarqué que les personnes qui font un cheminement spirituel en arrivent un jour ou l'autre à divorcer ou à se séparer. Est-ce normal ce détachement? Puis est-il nécessaire?
C'est une question très intéressante. D'abord, nous vous dirons qu'il n'y a pas uniquement les gens qui disent faire une démarche spirituelle qui se séparent ou se divorcent. Là, vous pouvez, si vous le voulez, aller auprès des informations auxquelles vous avez droit dans vos ministères et faire des statistiques. Nous vous dirons, à ce moment-là, vous serez bien étonné que ceci n'appartient pas davantage aux gens qui font une démarche de croissance ou d'évolution aux gens qui n'en font pas. Est-ce que ceci est normal? D'abord, nous expliquerons que par rapport aux liens créés entre les hommes et les femmes, il y a beaucoup de vieilles mémoires qui sont restées coincées. Des mémoires qui viennent des enseignements que vous avez reçus précédemment et qui voulaient que lorsqu'un homme épouse une femme, il le fasse pour toute la vie et jusqu'à sa mort, et parfois même, il en mourait, parce qu'il n'avait pas été totalement fidèle à lui-même, mais fidèle à une loi extérieure. Si vous avez un conjoint et une conjointe avec qui vous faites une démarche d'évolution, et avec qui vous êtes capable de vous refléter dans un miroir afin de vous permettre réciproquement de vous laisser évoluer autant individuellement que l'un face en face de l'autre, nous vous dirons, vous n'avez pas besoin de vous quitter, puisque chacun dans le couple se respecte totalement et devient responsable de sa propre évolution, responsable de son changement, responsable, nous dirons, de la transformation qu'il doit opérer en lui. Mais si vous êtes auprès de quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas partager, parce que vous devez étouffer votre pensée, parce que votre démarche devient contrariante et dérangeante, et que ceci crée une atmosphère ou un climat qui devient tellement tendu que vous ne pouvez plus communiquer ensemble, que vous ne pouvez plus échanger sur des sujets qui vous tiennent à cœur, alors il se peut que vous ayez terminé ensemble une démarche qui pouvait être un règlement karmique, et qu'alors, dans le respect et l'amour, vous acceptiez que l'autre membre de ce couple puisse prendre une voie qui soit différente de la vôtre. Alors, lorsque vous dites « est-ce normal ?», vous voudriez enfermer ceci dans une norme qui serait une norme sécurisante. Il n'y a pas de norme au cheminement humain. Et c'est pourquoi les règles et les lois qui ont été émises et qui ont enfermé tous les humains dans ces mêmes règles ou ces mêmes lois n'étaient pas capables de tenir compte du fait que chaque être humain est unique au monde et qu'il a une voie qui lui appartient et qui ne sera jamais empruntée par personne d'autre que lui-même.
Que représente l'argent au point de vue spirituel?
L'argent. L'argent est une énergie. La table est une énergie. La fenêtre est une énergie. Votre pied est une énergie. Seulement, l'énergie de l'argent a été cristallisée. Cristallisée dans le jugement, parce que souvent, elle a été utilisée pour diviser les êtres humains, mettre d'un côté les riches et de l'autre côté les pauvres, alors que les pauvres jugeaient les riches d'être bien nantis et de ne pas s'occuper d'eux, et que les riches jugeaient les pauvres en disant qu'ils étaient des paresseux et qu'ils n'arrivaient pas à devenir responsables d'eux-mêmes. Ceci est le fruit de la division, et l'argent a souvent été une énergie qui a été utilisé pour les fruits de cette division. Mais nous vous dirons que l'argent est une énergie. Elle porte la couleur et la vibration de votre regard. Si vous la voyez comme quelque chose de mauvais, elle devient mauvaise. Si vous la regardez comme étant quelque chose de bon, elle devient bonne. Si vous vous en détachez, dans le sens que vous dites « je sais que je ne manquerai jamais de rien », que ceci pourra se manifester devant moi sous la forme d'argent ou sous la forme d'un fruit ou sous la forme de la présence de quelqu'un, alors nous vous dirons, vous saurez que cette énergie est là pour vous servir et que lorsque vous n'en avez plus besoin, elle peut prendre une autre forme. Ne jugez pas l'argent, regardez plutôt où est-ce que vous êtes coincé à l'intérieur de votre propre énergie par rapport à l'argent. Lorsque vous dites « est-ce que l'argent est spirituel ?», nous vous disons « est-ce que l'énergie est spirituelle ?». Alors, si l'énergie est spirituelle, la fleur l'est, l'arbre l'est, la pierre l'est, l'argent l'est, votre main et votre pied le sont, votre estomac et votre cœur le sont. Mais nous vous dirons, chaque énergie a une vibration différente et c'est l'usage que vous en faites qui la rend bonne ou mauvaise.
Quelle est la base de cette guerre où l'argent fut toujours un litige par rapport à tout mouvement spirituel et même que l'argent ne va pas du tout avec le spirituel?
Bien sûr. D'abord, nous vous dirons que dans les mémoires causales, il y a beaucoup de mémoires par rapport à l'argent, comme il y a de plus en plus d'êtres parmi vous qui commencent à s'ouvrir à la dimension spirituelle et dont le moi supérieur va chercher des mémoires causales, alors il va chercher dans le plan causal des mémoires où vous avez été abusé par des sectes ou par des églises à ce niveau, où vous deviez, par exemple, donner la dîme, ou que vous deviez donner une partie de vos avoirs, et qu'on vous faisait sentir coupable si vous ne donniez pas, en même temps qu'on vous disait que vous ne deviez pas être attaché à l'argent, on vous soutirait l'argent. Alors, vous avez gardé ces mémoires. Elles sont encore là dans le plan causal. En évoluant et en commençant à avoir accès, toutes ces mémoires vous reviennent à la pensée. Et alors, vous avez estampillé l'argent de ces mémoires anciennes et vous l'avez jugé comme ne pouvant pas être accessible avec la partie spirituelle. Nous vous dirons, bien sûr, l'argent fait partie de la matière, et votre pied aussi fait partie de la matière. Est-ce que parce qu'il fait partie de la matière, vous allez le couper et le jeter à la poubelle? Pas du tout, mais vous saurez que toute matière est soumise à une loi que nous appellerons la loi d'entropie, qui veut dire que tout ce qui est matérialisé, un jour se dématérialisera et un jour s'effondrera. Vous avez une maison, vous viendrez voir votre maison dans 4000 ans. Il y a des arbres dans vos rues, vous viendrez voir ces arbres dans 4000 ans. Et vous verrez que cette loi d'entropie, qui est la loi qui fait que tout ce qui est créé et qui est matière, un jour se détruira et sera composté. Nous aimons bien cette expression, elle est plus facile à saisir. Elle n'est pas détruite dans le sens qu'elle est rejetée par le divin, mais dans le sens qu'elle sera employée autrement en termes énergétiques. Il en est de même pour l'argent. Alors, si vous devez vous détacher de l'argent, allez vendre votre maison, votre voiture, tous vos biens, ne mangez plus, ne vous vêtez plus, parce que tout ceci est lié à l'argent et que vous êtes des êtres divins.
Quel a été l'objet de notre création par toutes les religions qui nous ont montré que c'était la voie spirituelle à suivre?
Nous vous dirons les religions dont vous avez fait partie, puisque vous avez tous, un temps ou l'autre, été des curés et des prêtres et des moines et des enseignants religieux. Vous aviez une forme pensée qui était une forme globale et qui gérait la race humaine parce que la race humaine était rendue à un certain niveau d'évolution. Elle n'avait pas franchi un niveau d'évolution supérieur. Donc, elle se voyait comme divisée. Se voyant comme divisée, elle se disait « Il n'y a qu'une seule voie et qu'un seul chemin à prendre. » Et le chemin à prendre, c'est le chemin du renoncement, c'est le chemin du rejet de tout ce qui n'est pas beau, de tout ce qui n'est pas bon, de tout ce qui n'est pas parfait. Et même la sexualité est entrée dans ceci. Et il fallait que les hommes ou les femmes se castrent pour être, se castrent, non pas en faisant une chirurgie, mais nous vous dirons en s'absentant de cette énergie, parce que quelque part, ils ne pouvaient pas être spirituels s'ils avaient des relations sexuelles. Pourquoi est-ce que les églises ont établi cette forme? Parce que la race humaine tout entière, dans sa vibration, était divisée et devait faire un choix. Alors que maintenant, lorsque vous entrez dans l'ère du Verseau, il n'est plus question de division. Il est question plutôt d'unifier les polarités, de prendre le bien d'un côté et le mal de l'autre, de les dissoudre ensemble pour créer une énergie nouvelle. Alors là, il n'y a plus de division. Il y a plutôt le langage du verseur d'eau. Le verseur d'eau est celui qui collabore à unifier tout ce qui a été divisé. Lorsque vous entrez dans cette ère du Verseau, alors les plans qui appartiennent au macrocosme deviennent liés à votre propre microcosme et accélèrent vos vibrations. Alors nous vous dirons que si les églises ont donné ces formes d'enseignement, c'est parce que la race humaine tout entière était rendue à un niveau où elle devait expérimenter les excès, les séparations, les ruptures et enfin tout ce qui créait la dualité. Maintenant, vous franchissez une autre étape. Donc, vous n'avez pas à juger les églises dont vous avez fait partie et que vous avez collaboré à construire, parce que vous n'avez pas à juger une conscience primaire qui appartenait à la race. Bien sûr, la première tendance serait de juger les églises et de dire « c'est de leur faute si cela a été si difficile pour nous ». Mais lorsque vous comprenez que c'est vous l'Église, alors vous ne pointez plus le doigt à l'extérieur et vous savez bien qu'il n'y a pas de jugement. L'univers ne juge pas. Le plan spirituel qui contient toute la nourriture universelle est un plan où le jugement n'existe pas. L'amour ne juge pas, la conscience ne juge pas et la connaissance absolue, l'intelligence absolue ne juge pas sa création.
Une question ici, pouvez-vous me dire ce que je fais sur cette terre? C'est signé Lucille.
Chère Lucille d'amour, ce que vous faites ici, c'est que vous venez être, comme tous les autres êtres humains, une espèce de lieu de passage entre l'humain et le divin, afin que le divin puisse enfin s'incarner. Vous savez, lorsque vous étiez jeune, vous et vos amis et tous les gens qui sont dans cette pièce, lorsque vous alliez à l'église le jour de Noël et que vous chantiez le minuit chrétien, nous vous dirons, vous parliez de l'homme-dieu qui était descendu sur terre. Mais à ce moment-là, vous ne saviez pas que vous étiez cet homme-dieu, c'est-à-dire que l'être passage.
Possible de répéter cette dernière phrase, s'il vous plaît.
Bien sûr. Alors nous disions que l'être humain est le lieu de passage ou le lieu de synthèse entre le divin et la matière, de sorte qu'enfin le divin va pouvoir descendre dans la matière et la matière va pouvoir venir se fondre dans le divin et l'être humain est le lieu de synthèse, le lieu de compostage de toute énergie. Alors, cher ami, c'est cela que vous êtes venu faire sur le plan terrestre. Comment allez-vous réaliser ceci? En vous connaissant vous-même. Il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre mission que celle de la connaissance et de la transformation de soi. Et cela suppose une grande transformation psychologique de toute la race humaine et de vous, bien entendu.
Dans notre ère actuelle, comment percevoir tous ces monastères, ces moines bouddhistes et toute cette partie de nous que nous reconnaissons, mais en même temps, doit-on absolument passer par cela pour atteindre cette spiritualité?
Nous trouvons cette question très intéressante. Nous allons vous expliquer, comme nous le disions tout à l'heure, que chaque être humain a une voie qui lui est particulière, parce que, étant donné qu'il est différent de tous les autres êtres humains qui ont existé, qui existent et qui existeront, chaque être doit trouver sa propre voie. Il y en a qui trouvent leur voie intérieure et la connaissance d'eux-mêmes à travers la méditation. Il y en a qui trouvent leur voie à travers la créativité. Il y en a qui trouvent leur voie à travers le service à leurs frères. Nous vous dirons, toutes ces voies sont parfaites. Et ce qui les rend parfaites, c'est la fidélité à soi-même. Alors, si au-dedans de vous, vous avez l'inspiration de devenir un moine tibétain et chaque jour de consacrer des heures à la méditation. Ne le faites pas parce que c'est plus spirituel d'être un moine tibétain que c'est spirituel de peler des pommes de terre. Alors, vous pouvez travailler dans un restaurant, vous pouvez être un éboueur, vous pouvez travailler dans la plomberie, vous pouvez être celui qui conduit des chevaux, vous pouvez être un mathématicien. Peu importe ce que vous faites, si vous êtes dans votre voie, non pas à cause des autres et à cause de l'influence extérieure, mais parce que vous êtes suffisamment revenu à vous-même pour connaître votre voie, alors cette voie est parfaite et spirituelle. Et rien n'est à comparer. Vous ne pouvez pas dire il est plus spirituel d'être en état méditatif qu'il est spirituel de soigner la plaie d'un malade, qu'il est plus spirituel de peler des pommes de terre ou de préparer un repas pour la famille. Le spirituel n'existe pas dans ce que vous faites, mais dans ce que vous êtes.
Et pour surenchérir parce que vous venez de dire, c'est possible de nous indiquer la façon la plus simple de communiquer cet enseignement-là à nos enfants?
En étant vous-même, dans la vérité et dans la transparence, en n'obligeant pas vos enfants à suivre la voie qui est la vôtre, mais en n'ayant pas peur de leur parler de votre propre voie et de leur dire « Je cherche la voie qui est mienne, je sais qu'elle est unique au monde, je sais que j'ai à mettre toutes mes énergies pour la trouver et pour la suivre, et je souhaite pour toi que tu puisses faire de même. Je peux te supporter, je peux te comprendre, je peux t'aimer, je peux te guider, mais je sais qu'un jour, tu seras ton propre maître, ton propre gourou, et que c'est toi qui t'accompagneras dans ta propre voie. » Ceci ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aller consulter des gens extérieurs à vous pour voir plus clair au-dedans de vous. Et nous insistons pour voir plus clair au-dedans de vous et non pour donner votre pouvoir à ces personnes. Si ces personnes sont pures dans l'énergie, si elles ont commencé à intégrer de façon puissante dans leur énergie ces deux polarités, amour et conscience, elles ne seront que le reflet de votre propre visage.
Alors, quel est le rôle de l'alchimiste par rapport à ce qui nous aide à se diriger vers notre spiritualité?
Nous vous dirons, vous êtes l'alchimiste. Vous êtes la matière et vous êtes l'esprit. Car la matière et l'esprit sont divisés. Lorsqu'il ne peut pas y avoir de contact à cause d'une densité trop grande. Par exemple, nous expliquerons qu'une pierre a un corps éthérique, mais qu'elle n'a pas de corps spirituel, quoiqu'elle porte une étincelle du spirituel, une étincelle, bien sûr, qui est endormie, mais qui est là, puisqu'elle origine de la pensée et de l'intelligence créatrice. Cependant, elle n'a pas de corps spirituel. Nous avons dit tout à l'heure que même la race humaine, il y a 8000 ans, n'avait pas non plus accès à un corps spirituel puisqu'elle n'était pas suffisamment évoluée. Alors, l'être humain est un être magnifique et extraordinaire qui a ce pouvoir, comme alchimiste, de accueillir tellement la matière et d'aimer tellement la matière qu'il puisse mettre cette matière en contact avec l'esprit qu'il reçoit et qu'il canalise en lui-même. Alors nous vous dirons à ce moment-là, la création tout entière reçoit la vibration d'évolution, d'amour, de conscience et d'intelligence de cet être.
Je veux communiquer avec mon guide. Que dois-je faire?
Vous détacher de votre guide et savoir que s'il a à communiquer avec vous, il le fera. vous savez, parfois, vous avez beaucoup donné votre pouvoir à des guides, à des anges, à des maîtres ascensionnés, au comte de Saint-Germain, à Melchisédek. Tous ces êtres sont des êtres de lumière qui veulent bien collaborer et participer avec vous, mais qui ne veulent en rien que vous leur donnez votre pouvoir. Alors, lorsque vous les suppliez et que vous quémandez l'amour auprès d'eux et que vous quémandez l'aide auprès d'eux, alors vous reconnaissez que vous n'êtes pas le Tout-Puissant. Vous reconnaissez que vous n'avez pas la capacité de vous aider vous-même. Mais si vous dites à votre guide, « Allah, je comprends que tu n'es pas supérieur à moi, tu es tout simplement plus avancé dans la notion de conscience. Tu es peut-être en secondaire 5, alors que je suis encore à la maternelle. Mais je sais qu'un jour, je serai en secondaire 5 et même à l'université, et que viendra un temps, dans le retour à la connaissance absolue, nous serons égaux et que dans l'essence, nous sommes déjà égaux. Alors déjà, votre guide se sentira mieux. Il ne se sentira pas comme celui chez qui vous allez quémander. Vous pourrez alors lui dire, « Moi, je veux collaborer avec toi et je voudrais aussi que tu collabores avec moi, car parfois j'ai des responsabilités et à cause de mon aveuglement et de la densité de ma matière, je n'arrive pas toujours à comprendre. Je sais que toi, tu as dépassé cette densité et qu'alors tu peux me conforter. Tu peux quelque part collaborer avec moi et alors nous serons ensemble dans la co-création. Nous vous dirons qu'à ce moment-là, votre guide, il se manifestera très clair. Il ne se manifestera pas comme un être de matière qui vient s'asseoir à côté de vous, vous faire une caresse et vous consoler et vous dire que vous faites bien pitié. Il se manifestera à travers votre intuition. Il se manifestera à travers votre mouvement de volonté pour passer à l'action et pour créer votre transformation. Alors, n'attendez pas de vos guides qu'ils fassent pour vous ce qu'ils savent que vous pouvez faire pour vous-même. Mais, si vous vous ouvrez à cette collaboration, alors nous vous dirons, il n'y aura pas qu'un seul guide à votre service, il y en aura des milliers, comme vous serez au service de milliers d'êtres de la race humaine qui ne sont pas encore éveillés.
Alors, un calice venant de Val d'Or.
Ah, ça, c'est bien. Merci beaucoup.
Alors, la prochaine question, si tout est parfait, quel est le rôle des guerres passées?
D'avoir pu permettre à la race humaine de comprendre que la guerre est une énergie de division et de faire saisir de façon intrinsèque, dans une connaissance presque absolue, que vous ne voulez plus être dans cette division, mais que vous êtes fait pour l'unité et que cette division ne vous a jamais rien apporté. D'ailleurs, la guerre est issue de la peur du manque. S'il n'y avait pas la peur du manque, il n'y aurait pas de guerre, ni de guerre d'argent, ni de guerre de territoire, ni de guerre d'avoir peur de perdre l'amour ou de perdre l'affection de quelqu'un, ou peu importe. Nous vous dirons, toutes les guerres sont issues de la peur du manque. Alors, débarrassez-vous à l'intérieur de vous de cette peur du manque qui vous fait la guerre. Elle vous fait la guerre depuis trop longtemps maintenant. Vous ne pouvez plus vous nourrir de cette énergie. Cette énergie n'est plus nourrissante. Et étant donné que vous pouvez désormais avoir accès à votre corps spirituel, puisque de plus en plus il y a des êtres qui passent par l'illumination, se dépouillent des plans de l'astral, entrent ensuite en contact avec le plan causal, le plan akashique. Plan spirituel où ils deviennent des éveillés, comme il y a de plus en plus d'éveillés sur le plan terrestre, nous vous dirons alors vous recevez la vibration et vous faites partie de cette grande cohorte qui commence à sortir de cette peur et de toutes les peurs. Toutes les peurs sont interreliées, toutes les peurs sont, nous dirons, issues d'une pensée luciférienne.
Alors la prochaine question, la première partie, elle sera peut-être certainement à commenter. Alors je constate que vous avez beaucoup lu et intégré les enseignements de grands sages orientaux tels que Mère, Sri Aurobindo et d'autres, et vous nous les communiquez parfaitement. Alors merci. Je discerne par contre certains encodages de survie, de territoire et de frontières liés au premier chakra à travers les termes « pays du Québec »,« peuple du Québec » et « l'éblouissement pour Lucien Bouchard ». N'est-ce pas là un attachement du canal qui risque d'influencer les consciences? Il n'est pas nécessaire d'amputer son corps ni son pays pour s'individualiser. La souffrance n'est pas nécessaire.
Alors vous avez raison. Et nous allons vous dire où vous avez raison. Vous avez raison dans le lieu où le canal de la forme Louise. Nous ne devrions pas parler du canal, mais nous devrions parler de la forme elle-même. En fin de semaine, il y a eu un atelier. Et dans cet atelier, il y a eu de proposer par le chariot blanc un exercice où les gens devaient laisser derrière eux ce à quoi ils sont encore attachés. Et la seule résistance qui restait à la forme Louise était la résistance par rapport à son amour du Québec. Cependant, nous continuons de vous dire que la terre du Québec est une terre sacrée, non pas une terre isolée des autres terres. Nous disons que la terre du Québec est une terre sacrée parce que c'est une terre qui a peu connu de guerre. Lorsque nous parlons aussi de Lucien Bouchard, indépendamment des options de la forme Louise, nous pouvons vous dire que cet être n'avait pas besoin d'être handicapé. Mais si vous êtes capable de faire une lecture qui vous projettera plus loin que ce qui est vu, plus loin que la désinformation, vous verrez que cet être a un autre niveau, peut-être pas au niveau du politicien, mais à un autre niveau, est un être évolué qui a accepté de venir sur le plan terrestre pour jouer ce rôle, ainsi que l'a été Martin Luther King, ainsi que l'a été John Fitzgerald Kennedy, ceci indépendamment de leur rôle politique. Car sachez bien qu'il y a des êtres de lumière à travers les hommes politiques, il y en a à travers des hommes de finance, il y en a à travers des médecins et des chirurgiens. Il y en a à travers des prêtres et des religieuses. Il y en a à travers tous les citoyens. Alors, faites utiliser votre discernement et le langage que vous venez de tenir est juste et nous vous dirons que la forme Louise le recevra avec grand plaisir car elle était mûre pour faire ce détachement et se considérer non pas même comme citoyenne de la Terre, mais comme citoyenne de l'univers tout entier. Et pour cela, nous vous remercions de votre transparence et de votre franchise.
Est-ce possible à ce moment-là de passer un commentaire par rapport à ce qui semble être dit ici, que ce qui sort du canal, c'est qu'est-ce qui a été lu? Et pour ma part, ce que je constate que ce qui sort du canal vient du plan de la supraconscience, donc du plan causal. Et là, tous les êtres de lumière se côtoient. Donc, il y a échange vibratoire au niveau de cette conscience.
Certainement, parce qu'autrement, toutes ces lectures ne pourraient pas être ingérées. Elles ne pourraient pas être transformées dans la vibration d'une parole courante. Nous vous dirons, ce n'est pas parce que quelqu'un a lu des livres qu'il est véritablement en contact vibratoire avec le plan causal ou même avec l'âme de ces êtres. Alors, bien sûr, la forme Louise, depuis son enfance déjà, puisque dès l'âge de 15 et 16 et 17 ans, elle lisait déjà sans comprendre mais comprenant la vibration, Théard de Chardin, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix. Bien sûr, elle a été marquée et elle a forgé son propre gabarit, et ceci lui a permis de devenir un canal pur, auquel vous n'avez pas à donner de pouvoir. Elle ne veut pas de ce pouvoir, et parfois, s'il n'en tenait qu'à elle, elle se retirerait dès maintenant du travail. Mais elle considère que tous les gens à qui elle dit la parole, elle donne cette parole parce qu'elle considère ces personnes comme des parties d'elle-même. Et les considérant comme des parties d'elle-même, c'est comme si elle s'instruisait et elle se permettait d'évoluer à travers le travail qu'elle accomplit.
Alors, merci pour ces éclaircissements. Dans un autre ordre d'idées, est-ce que...
Nous apprécions beaucoup cette question.
Alors, je disais, est-ce que le sous-sol miné de l'Abitibi interfère au niveau énergétique ou vibratoire face à l'humain?
L'univers ne tolère pas de vide. Alors, ce qui a été vidé et évidé, nous vous dirons, contient d'autres formes vibratoires. Bien sûr, il y a des abus qui sont causés par ceux qui sont à la recherche du pouvoir et de la richesse de façon exacerbée et qui seraient prêts à dépouiller la terre de toutes ses ors et, nous dirons, de toutes ses formes cristallines. Cependant, nous vous dirons que lorsque la terre est amputée de ses formes, elle ne cesse pas de les produire. Au contraire, elle accélère son mouvement et elle crée d'autres formes énergétiques. Et vous serez étonnés, peut-être pas dans 15 ans ou 20 ans ou 30 ans, mais sur une période de temps plus importante, de voir que ce qui a été évidé s'est rempli d'un trésor plus grand encore. Ceci ne justifie pas l'abus effréné.
Parlez-nous de la période de transition vers l'ère du photon. Même si vous avez fait, on a déjà fait une conférence à ce niveau-là, est-ce possible de répondre
Bien
à cette
sûr.
Question?
Nous dirons que il est difficile de donner des explications à ce niveau parce que vous les recevez uniquement parfois, pas toujours, mais uniquement parfois avec un cerveau mécanisé. Et lorsque vous recevez ces informations avec un cerveau mécanisé, c'est que quelque part, vous n'en faites pas une digestion qui est parfaite. Si nous vous disons qu'au lieu d'une couche de photons, il y a une couche de conscience et une couche d'amour qui est en train de poursuivre la race humaine afin que la race humaine puisse faire un bond si important qu'elle n'a pas même l'intuition de ce bond, elle peut l'avoir dans sa vibration sans l'avoir dans sa connaissance actuelle. Alors nous vous dirons que la présence de la couche de photons est une présence d'énergie lumière qui émane de ces deux polarités, amour-conscience, qui viennent au-devant de l'homme, puisque l'homme va au-devant de la conscience et de l'amour par sa propre évolution individuelle et collective.
Et comme période de transition, on peut dire quoi, vers les prochaines cinq années? Les prochaines cinq
ça,
années?
Ça, c'est enfermer les choses dans le temps. Ça aussi, c'est très difficile, car sachez bien que le transpersonnel n'est pas lié au temps. Il y a déjà des gens qui sont dans la couche de photons et qui ont terminé les trois jours de noirceur, alors qu'il y a des gens qui n'ont même pas l'idée que cela existe. Alors, ne liez pas cela au temps, autrement vous vous enfermez. Essayez plutôt de rester en contact de façon la plus parfaite avec votre moi supérieur et avec vos consciences supérieures, c'est-à-dire avec le soi et la partie transpersonnelle de vous-même, afin de pouvoir, nous dirons, vous délivrer du temps et ne plus voir les choses en termes d'années ou parce que cela vous maintient dans le mental. abandonnez-vous. Sachez que les choses sont déjà là. Elles sont déjà, elles n'attendent qu'à se manifester. Mais cette question et ces formes de questions sont empreintes, nous dirons, d'un intérêt mental et d'une recherche appartenant à l'ego. Alors, tentez de vous délivrer de ces formes. Maintenant, nous vous dirons qu'actuellement, vous êtes dans un des passages les plus étroits. Ceci ne veut pas dire que vous allez être broyé à l'os, mais ceci veut dire que vous allez être interpellé pour vous délivrer de vos anciennes croyances, pour délivrer votre corps émotionnel, pour sortir vivant de la tombe de la peur et de la mort. La peur et la mort.
Pardon.
C'est bien.
Quelle est la meilleure façon de se servir de notre discernement avec tous les mouvements dits spirituels qui circulent partout autour?
De la même façon que lorsque vous êtes à table et qu'il y a quelque chose dans votre assiette, vous prenez d'abord une bouchée, vous voyez si cela vous convient et ne vous convient pas, alors il en est de même. Regardez, observez, soyez sans jugement, regardez les choses passées. Ne donnez pas votre pouvoir, mais voyez si vous êtes mu du dedans, si vous êtes touché dans le cœur, si vous sentez que vous n'êtes pas entraîné par la force à adhérer à des croyances ou à des structures qui ne vous conviennent pas. Alors le discernement, vous l'acquérez par la pratique.
Par rapport à votre commentaire d'ouverture, voulez-vous nous parler des rôles interreliés entre notre esprit, notre âme et notre corps? Est-il juste de dire que notre esprit est à notre âme, ce que notre âme est à notre corps? Le rôle de notre esprit et de notre âme se modifie-t-il dans les temps d'aujourd'hui?
Cette question est complexe et elle pourrait faire partie d'un thème, nous vous dirons, presque total. Ce que nous vous dirons pour simplifier une réponse, c'est de vous dire que rien n'est séparé. Rien, mais absolument rien n'est séparé. Le transcendantal n'est pas séparé de la matière, quoi qu'il soit une autre vibration. Nous vous dirons la petite ampoule de 25% n'est pas séparée d'Hydro-Québec.
De 25 watts.
Oui. De 25 watts. N'est pas séparée de Hydro-Québec, même si à côté d'elle, il y a 200 watts. Alors, nous vous dirons que rien n'est séparé. Tout est énergie et tout est parfait. Cependant, lorsqu'une énergie cesse d'être nécessaire, elle est compostée. Nous avons déjà dit que l'âme inférieure était située entre le chakra du cœur et les chakras de la base, et qu'elle était là, un peu comme un arbitre entre le syndicat et le patron, et qu'alors, elle était là pour permettre aux chakras de la base de pouvoir être progressivement transmutés en une énergie plus puissante, afin que l'être puissant ayant traversé la porte des ombres puisse s'asseoir dans le cœur. Alors, à ce moment-là, étant à un autre étage, son âme inférieure n'a plus sa raison d'être. Cependant, nous le répétons, rien n'est détruit, tout est composté.
La mort de la Terre fait-elle partie de l'évolution spirituelle et de la race humaine? Si oui, y a-t-il une façon différente pour évoluer, autre que cette mort?
Nous vous dirons bien sûr qu'il y a une façon différente autre que la mort pour évoluer. Mais vous avez une fausse perception de la mort. La mort, c'est la vie. Mais vous voyez la mort comme une fin. Vous voyez la mort comme une punition. Vous voyez la mort comme quelque chose qui vous arrête dans un mouvement. Alors que la mort est une grande porte qui s'ouvre et qui vous permet d'adhérer à une conscience nouvelle et à des plans vibratoires plus élevés. Et nous vous dirons, il en est de même pour la Terre. Il se peut que la mort, que la Terre meure d'une partie d'elle-même, mais qu'elle ne mourra pas pour ne plus exister dans l'univers. Nous vous dirons, de toute façon, actuellement, elle reçoit tellement de vibrations d'amour que quelque part, comme vous, puisqu'elle est une entité, elle comprendra qu'elle n'a plus à voir la mort de la même façon et qu'elle n'est plus obligée d'aller vers la souffrance. Observez que depuis à peu près une 20 ou 25 années, il y a des êtres éveillés sur le plan terrestre qui ont commencé à sensibiliser la nation tout entière et les nations tout entières à la pollution, à, nous dirons, tous ces phénomènes qui se produisent à cause des abus au niveau du plan terrestre. Et nous vous dirons que ceci a des effets à long terme bien sûr, mais qui augmentent vibratoirement de plus en plus et qui va chercher dans la conscience des multitudes de personnes. Alors, ne vous inquiétez pas pour la Terre. Commencez par savoir que la Terre première que vous avez à gagner, à vaincre et à dépolluer, c'est la Terre de votre propre cœur. Lorsque vous aurez accompli ceci, nous vous dirons, la Terre recevra elle aussi cette vibration. Et sachez qu'en tant, en tant qu'entité, elle a le pouvoir elle-même de labourer la Terre de son cœur et d'y semer la vibration d'amour et de conscience.
Sur ce chemin spirituel, doit-on être végétarien ou continuer à manger de la viande?
Nous vous dirons, vous devez d'abord être, avant d'être végétarien, être dans le discernement. Pourquoi devenez-vous végétarien? Parce que le végétarisme, bien sûr, vous permet d'être en contact avec une nourriture qui a une vibration qui est différente. Mais laissez-vous le temps de la transition. Si vous êtes végétarien uniquement pour bien paraître, uniquement pour l'ego, uniquement pour dire aux gens qui vous entourent, « Moi, vous savez, je suis végétarien », alors nous vous dirons, vous mangez en même temps que votre nourriture le sel et le poison de l'ego. Mais si vous êtes végétarien parce que quelque part votre nature du dedans vous interpelle, allez dans cette voie, mais ne jugez rien et ne jugez personne. Bien sûr, celui qui prend cette décision prend simultanément la décision de s'occuper, nous dirons, d'une manière plus maternelle, de la propre énergie de sa matière. Et ceci peut être un bien grand geste d'amour.
Alors, comme dernière question, il semble que chaque fois que le chariot blanc parle de trois jours de noisseur, ceci suscite énormément de peur. C'est possible de préciser, s'il vous plaît, que se passerait-il? Que devrons-nous faire?
Être. Ce n'est pas compliqué. Ce qui complique, c'est votre mental, qui cherche toutes sortes d'explications. Bien sûr que vous pouvez aller chercher des explications dans les enseignements de Dumvalo Melchisedec, par exemple, et de d'autres maîtres qui sont sur le plan terrestre et qui sont là pour vous prévenir, non pas pour vous effrayer, mais pour que vous soyez prêts. Imaginez que quelqu'un n'est pas du tout prêt à ces événements et que tout à coup les événements se produisent et qu'il ne sait pas s'il sera un jour ou 10 ans dans cette noirceur. Est-ce qu'il ne sera pas différent de celui qui sait que c'est uniquement 3 jours? Alors nous vous dirons, cette noirceur, elle sera extérieure peut-être, elle sera intérieure certainement. Nous avons dit tout à l'heure qu'il y avait déjà des gens qui ont traversé cette noirceur. Et ceux-là qui ont traversé cette noirceur, y aurait-il 3 jours de noirceur dans la matière sur le plan terrestre qui ne serait pas touché par cette forme? Alors, nous insistons pour que le travail que vous ayez à faire, ce ne soit pas d'engranger des biens, engranger des matériaux, engranger des nourritures et vous noyer dans un monde de peur, mais bien au contraire, de vous adresser à votre transformation psychologique afin que vous puissiez être capable de traverser peu importe quel événement en restant toujours centré dans l'énergie de votre propre cœur. Nous vous dirons que la Terre a déjà traversé bien des jours de noirceur, que chacun d'entre vous, vous avez traversé bien des jours de noirceur, et que jamais une seule épreuve ne vous sera demandée sans que vous ayez la grâce qui vous y accompagne. Que cette grâce soit avec vous, que la grâce de la conscience, de l'amour et de l'intelligence infinie soit votre objectif à jamais. Nous vous aimons. Amen.
Alors nous remercions le chariot blanc pour cet amour, cette transparence, cette vérité et aussi, surtout, cette réflexion de cette énergie de supraconscience ou de conscience supérieure qui vient tout simplement nous montrer cet état de conscience dans lequel nous sommes également. Alors suivant le besoin, veuillez s'il vous plaît procéder.